Bonjour Patrick, ben oui, c'est exactement 400 ans après la naissance de Rembrandt en 1606. Tous les peintres se prennent pour Rembrandt. Tout le monde a les mêmes illusions. Picasso. D'histoire. Un jour de janvier 1632, dans une salle de l'Antoniusmarkt d'Amsterdam, le professeur Nicolas Stulp dissèque le cadavre d'un condamné à mort. Mais cette cérémonie macabre ne choque personne. Tous les ans, la tradition veut que le premier chirurgien de Hollande donne une leçon d'anatomie en public. L'usage veut aussi qu'on demande à un peintre d'immortaliser l'événement et les personnalités qui y assistent. Ce jour-là, le professeur Tulp est entouré de 7 notables de la ville qui ont payé très cher pour être présents sur ce portrait de groupe. Mais si aujourd'hui, près de 400 ans après, on admire encore la leçon d'anatomie du professeur Tulp, ce n'est pas pour la gloire éphémère de ces personnages dont tout le monde a oublié le nom, c'est pour Rembrandt qui, en 1632, devenait avec ce tableau un des peintres les plus célèbres de son temps.
Mesdames et messieurs, le professeur Nicolas Stulp.
Comme vous pouvez le voir, j'incise le bras, à la suite de quoi je vais procéder à l'écartement des tissus. Et vous pourrez bientôt constater chez cet homme dont le péché a entraîné la mort ces tunnels que son sang impie a parcouru. Constatez la splendeur mécanique de cette machine de Dieu. Cette création plus parfaite que les plus parfaites créations de nos artistes.
Vous ne semblez pas satisfait.
C'est que le professeur Tulp ne se laisse pas faire. Il pose.
Votre peinture est magnifique parce que vous ne savez pas mentir.
Anne-Sophie Molinier, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était l'extrait d'un excellent film de Charles Maton, Rembrandt, auquel vous venez de consacrer une excellente biographie aussi, dans laquelle vous rappelez que cette fameuse leçon d'anatomie, eh bien, c'est le tableau grâce auquel Rembrandt s'est rendu célèbre en 1632, et c'est aussi le premier, je crois, qu'il signe de son seul prénom, hein, de Rembrandt, puisqu'il s'appelait Rembrandt van Rijn. Il est né en 1606 à Leyde, et pas du tout destiné à devenir un artiste, c'était le fils d'un meunier.
Oui, en effet, c'est ce qui est relevé d'ailleurs par des voyageurs dès la fin des années 1620, qu'il s'agit du fils d'un meunier hautement estimé. C'est le 8e des 9 enfants d'une famille dans laquelle on est meunier depuis 4 générations, ce qui implique un milieu peut-être modeste, mais qui connaît une certaine prospérité cependant. Et ce qui est original, c'est que c'est le choix que vont faire les parents de Rembrandt pour cet enfant-là, qu'ils n'avaient fait pour aucun de leurs autres enfants, de le pousser à faire des études. L'aisance à laquelle eux-mêmes sont parvenus leur autorise ce choix.
L'école latine, l'université de Leyde, mais alors lui, oui, préfère franchement les tableaux. Hein.
Oui, il reste très peu de temps à l'université de Leyde, où il a quand même côtoyé un milieu sans doute assez intéressant. Et très rapidement, en effet, il quitte cette université pour entrer en apprentissage auprès de
Swedenborg, qui est un grand peintre de l'époque.
Oui.
Il faut dire aussi que quand même il vit dans un pays calviniste où l'on a proscrit toutes les peintures ou toutes les œuvres d'art des églises ou des temples, oui, plutôt. En revanche, vous le dites, tout le monde a un tableau chez soi. On est passionné par la peinture dans les Pays-Bas de l'époque, dans les Provinces Unies, comme on les appelait encore.
Oui, c'est-à-dire que la situation reste encore un petit peu paradoxale, puisque on a déjà dépassé les moments les plus durs de la réforme et de l'iconoclasme. Il reste en effet certaines conventions et les artistes sont quand même certainement moins à l'aise pour peindre et pour peindre certains sujets que dans d'autres régions d'Europe. Mais en effet, ce sont des régions où les œuvres d'art sont présentes un petit peu partout. Et Rembrandt pouvait connaître certainement les œuvres des grands artistes qui l'ont précédé ou de ses contemporains qui étaient exposés par exemple à l'Hôtel de Ville, de Lucas de Lyde par exemple ou autre. Et il est vrai qu'il y avait aussi une familiarité avec ces œuvres qu'on pouvait trouver dans les maisons, mais peut-être plus dans ce cas des planches ou des feuilles volantes, mais qui illustraient tel ou tel thème.
Alors il devient donc apprenti chez ce peintre Sonnenberg et il va apprendre les bases du métier. Or à l'époque, vous le rappelez aussi, Anne-Sophie Molinier, peindre, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Il y a tout un travail fastidieux de préparation.
Oui, et les premières années, d'ailleurs, les apprentis qui se trouvaient dans ces ateliers de peinture, on ne leur donnait que des tâches assez fastidieuses. Le nettoyage, la préparation des toiles, le travail du bois, le mélange du blanc, de la craie, de la colle pour avoir la couche préparatoire sur la toile. Ensuite, les premières couches de peinture.
La préparation des couleurs.
La préparation
aussi.
Des couleurs, oui. Des pigments, même si on estime qu'à cette époque, certainement déjà certains artistes pouvaient acheter les pigments préparés, mais la plupart du temps, ils broyaient les couleurs. Et ensuite, les différentes étapes de dessin et d'application de la couleur. Donc c'est vrai que pendant plusieurs années...
C'était dur. Oui. Alors chez Sonnenberg, il rencontre un autre apprenti, avec lequel d'ailleurs il va partager un atelier d'artiste qui est tout simplement installé, je crois, dans la maison familiale de Rembrandt.
Oui,
cet autre artiste, c'est Jean Liévin.
Oui.
Et il peint ses premières toiles. Elles sont pas du tout connues. On en voit quelques reproductions dans votre livre. Toby en prière, l'artiste dans son atelier. C'est extraordinaire la maîtrise de ce garçon de cet adolescent qui a 19, 20 ans, dès le début, dès ses premières toiles, même si personne ne les connaissait à l'époque et même si aujourd'hui, d'ailleurs, on les connaît pas très bien.
Oui, les premières toiles, vous citiez l'artiste dans son atelier, en effet, qui est une toute petite toile de 1628 ou 1629 et qui fait partie de ces premières œuvres que pouvaient admirer les visiteurs et dans lesquelles on trouve déjà, que ce soit dans celle-ci ou dans d'autres toiles historiques, par exemple, ou quelques premiers portraits, ou voire autoportraits également, on trouve déjà en germe ce qui va faire la grande qualité de la peinture de Rembrandt. Même si ce sont encore là des peintures assez claires et avec des touche fine, ce qui disparaîtra par la suite.
Alors il peint donc, il est remarqué par le conseiller du statoudeur, c'est-à-dire le premier ministre des Provinces-Unies à l'époque, qui s'appelle Constantin Huygens, qui écrit donc de Rembrandt, il écrit qu'il est sur un pied d'égalité avec les plus célèbres peintres et qu'il ne tardera pas à les dépasser. Or à l'époque quand même, c'est pas rien, il y a Rubens, il y a Poussin, il y a Van Dyck, il y a Velázquez, c'est un beau compliment, et c'est ce Huygens qui va en quelque sorte révéler Rembrandt, c'est grâce à lui qu'il va venir à Amsterdam, qu'il va se rendre célèbre en 1642 avec la fameuse leçon d'anatomie du professeur Tölp. Et là, tout le monde, les commandes vont arriver, on lui commande des portraits. Vous dites qu'à l'époque, c'est assez nouveau, le genre du portrait, Anne-Sophie Molinier.
Enfin c'est un genre récent, c'est relatif,
oui,
il est né à la Renaissance, donc c'est à partir de la Renaissance aussi bien en Italie que dans la peinture du Nord que ce genre apparaît, et ce qui est certain c'est qu'il doit satisfaire avant toute chose l'attente du client, exprimer une identité par la ressemblance physique, et c'est là que la singularité de Rembrandt va se marquer très rapidement, dans la mesure où même si les premiers portraits qu'il va réaliser dans ces années, donc encore à Leyde, seront assez fidèle à ce que pouvaient attendre les riches négociants, les bourgeois de la ville, puis les notables d'Amsterdam. Rapidement, Rembrandt va s'écarter de modèles très 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 figés, très classiques et académiques pour expérimenter une pratique beaucoup plus personnelle.
Et des portraits de notables, dont la fille d'un bourgmestre qui deviendra la femme de Rembrandt.
Oui, je sais, tu travailles. Mais il y a là une jeune fille, ma cousine Saskia. Viens, Saskia. Elle est depuis peu à Amsterdam, chez son tuteur Cornelius Silvius, le prêcheur calviniste, un saint homme. Elle est orpheline, et nous aimerions que tu fasses son portrait. Elle est bien jolie, tu sais.
je ne suis pas si jolie que ça.
C'est vrai qu'elle n'est pas si jolie que ça.
Quant à lui, il n'est pas joli du tout. Et un peu vieux déjà à mon goût.
Du bist verloren, von uns verfahren, so hast erstoven mit Wind und Baren. Ei, ei, Sterre, im Mai von so verre sieht en nit en sieht. Ei, Sterre, warum en verscheint ei nit? Verbeiden van hugen aken kostte mij het scheiden min bitter maken. Maar stoute sterren die u doe zo verre van ontrouw geliet. Ontrouwe sterren, gij en meent het niet.
Hust Beloven, je crois que ça veut dire combien est promis. C'est une chanson des Pays-Bas du XVIIe siècle et signée par qui? Ben, elle est signée, elle serait signée par Constantin Huygens, l'homme qui a découvert Rembrandt. Et on a entendu, après cette rencontre avec Saskia. Saskia, qui deviendra sa femme un an plus tard, a beaucoup compté, hein, Anne-Sophie Molinier. D'abord, c'était son modèle préféré.
Oui, c'est le modèle préféré. En effet, si Rembrandt a, depuis ses premières œuvres, aussi bien dessins, gravures que peintures, eu pris l'habitude de représenter ses proches à la manière d'une sorte de parcours un petit peu intime qui va conduire jusqu'à la fin de sa vie. À partir du moment où il rencontre en effet Saskia, dès l'année 1633 de ses fiançailles avec elle, c'est en effet le modèle qu'on retrouve dans différents dessins. Depuis Saskia au chapeau de paille.
Puis elle change sa situation sociale et matérielle. Elle est riche, hein, oui. Saskia. Lui est très dépensier. En revanche, d'ailleurs, on va vite lui reprocher justement de manger la dot de sa femme,
oui,
en quelque sorte, et puis d'en vivre. Il va s'engager dans des dépenses considérables pour acheter des tas de choses,
hein. Oui. D'abord, c'est sa grande passion. Rembrandt est un immense collectionneur, et il va acheter dans des ventes aux enchères toutes sortes d'objets dont il enrichit d'ailleurs ses toiles, mais également toutes sortes d'œuvres d'art. On raconte même, c'est son premier biographe italien, Baldinucci, qui raconte plus tardivement que Rembrandt dans les ventes aux enchères faisait renchérir sur les prix uniquement pour assurer la valeur de cet art qui était le sien. Et d'autre part, il va acheter une grande maison très très onéreuse en 1639. Alors,
c'est le début des ennuis. Voilà, hein. On le verra plus tard, Sophie Molinier. Oui. Mais alors, on lui reproche aussi d'être un bon vivant. Il y a un tableau qui est frappant aussi, qu'on voit dans votre livre. C'est un autoportrait avec Saskia. Il la tient sur ses genoux comme si c'était une fille de bas étage.
Oui.
Il rigole, il tend un verre de vin. Ça, c'était vraiment les années heureuses de Rembrandt. Mais on lui reproche aussi cette espèce d'exubérance qu'il peut avoir.
Oui, qui peut apparaître en effet dans ce tableau de 1636, même s'il y a plusieurs lectures et les interprétations ne font pas encore l'unanimité à ce sujet-là. Mais il est vrai que cette vie dissolue, ce caractère très dispensier qui peut éclater ici dans cette image aux couleurs très très chatoyantes, que renforce le tournoiement des formes également, lui est reproché, et très fortement par la famille de sa femme, qui voit en effet la dot de s'amenuiser de façon considérable.
Et puis dans un pays calviniste, austère, évidemment, c'est pas forcément bien vu.
Non. Il a en effet une existence qui très rapidement, dès les premiers écrits de critiques contemporains ou de voyageurs contemporains, est condamné.
En tout ça, bref, un homme qui a déjà une fâcheuse réputation, mais que l'on reconnaît quand même comme l'égal des plus grands peintres de l'époque.
J'enrage. Rubens, cet arrogant, après m'avoir fait attendre 2 années, daigne enfin me répondre. Il refuse la commande du prince.
Les 3 images de la Passion ? Diable de catholique !
Je te fais demander à Rembrandt de nous peindre cela.
Bien sûr, Rembrandt fait son chemin.
Oui, mais peut-être n'est-il pas fait pour un pareil sujet. On le voit fréquenter indifféremment calvinistes, mélonites et remontrants. Les juifs, à dire sa sympathie, on compte même des catholiques parmi ses amis.
Et quelques sauvages.
Supporter ces sauvages, crois pas. J'aime mieux le cuir doré de leur peau que votre viande rose et à la chie.
Non,
Rembrandt n'a pas en effet que des portraits de notables, hein, malgré sa réputation, lui commandait quand même, on l'a entendu, des œuvres d'art sacré. L'art sacré, il va tenter de le réintroduire dans un pays, encore une fois, calviniste. On n'aime pas trop les artistes, ou en tout cas les sujets sacrés pour des artistes.
Oui, et ces sujets sacrés étaient fort limités, puisque ici, il n'y a pas la possibilité de commande de la part de l'Église. L'État commande assez peu également, et il reste donc la commande privée. Mais en effet, c'est d'abord le choix de Rembrandt. Très tôt, il peint des œuvres sacrées sans commande préalable, et il propose dans son atelier à la vente de clients que cela intéresserait éventuellement, ces œuvres-là. Et en effet, il va avoir le souhait de réintroduire cet art sacré qui avait été écarté de ces régions, avec des œuvres magistrales qui reprennent une tradition de la peinture d'histoire, mais d'histoire biblique, d'histoire religieuse, à laquelle il était très attaché. Et on retrouve là d'ailleurs son ambition d'origine, devenir un très grand peintre de l'histoire, et de l'histoire mythologique, mais beaucoup de manière bien moindre.
Oui, mais alors à sa manière, parce que c'est pas du tout Cubéni, hein. Comme moi, je vois alors, encore une fois, les représentations qu'il y a dans votre livre. Bon, le sacrifice d'Isaac avec Abraham, dont on retient le bras, bien entendu. Oui. Et puis alors surtout, alors une peinture terrible, violente, qui est Samson aveuglé par les Philistins. Alors là, on n'imagine pas ça effectivement dans une église. C'était pas ça qui a été destiné, mais c'est terrible. Ça a dû beaucoup choquer par sa violence.
La violence physique, qui est la violence de l'histoire, mais qui est mise en évidence au centre du tableau, la violence que le héros biblique subit, privé de la vue, avec une utilisation de la lumière pour rendre justement cette très grande violence,
a choqué, qui s'enfonce dans son œil,
qui s'enfonce dans son œil, et puisque c'est le moment en fait où Samson, doté par Dieu d'une force surnaturelle, est pris, a tenté de résister à ses assaillants, et finalement est saisi par eux, et on voit la douleur, l'expression de la douleur du héros qui est défigurée par cet acte des Philistins. Et ceci en effet choque, comme la plupart en fait des traitements que Rembrandt applique à ses peintures religieuses. Finalement, il met l'accent sur le côté très dramatique.
Et tout ça peint à Amsterdam, en Hollande, il n'en est jamais sorti. C'est quand même en 60 ans d'existence, cet homme n'a jamais bougé. Par exemple, contrairement à tous les grands peintres européens ses maîtres qui allaient en Italie, parce que c'était là que c'est des peintres italiens qu'il fallait s'inspirer, lui n'est jamais sorti des Pays-Bas.
Et Constantin Huygens le remarquait déjà dès les premières années, il parlait de Rembrandt et de Livens, donc ici de Rembrandt comme un artiste qui estime en tout cas que ce voyage n'était pas nécessaire, parce qu'il avait trop de choses à faire finalement sur place. Rembrandt connaît quand même l'art italien par les œuvres qu'il a pu admirer chez ses maîtres, qui tous deux avaient fait le voyage d'Italie, Swedenborg et puis Pieter Lastman, chez qui il a travaillé pendant quelques mois à Amsterdam. Et d'autre part, il possède beaucoup de gravures et d'œuvres que lui-même a reproduites d'après les maîtres italiens.
Alors s'il voyage pas beaucoup, en revanche, il est déjà célèbre dans toute l'Europe, au début 1840-1841.
Il est célèbre, par le biais de ses gravures.
Oui.
Comme on parlait juste des peintures, c'est pour ça que j'avais une petite réserve. En fait, il est reconnu, c'est parce que ses peintures très rapidement choquent, en effet, comme nous venons de dire. Et c'est surtout par le biais de la gravure, et en tant que graveur et maître incontesté de l'eau forte en particulier, qu'il atteint la célébrité.
Alors surtout avec le plus célèbre de ses œuvres, celle qui lui a été commandée en 1640 pour la salle de réunion de la Compagnie des Arquebusiers, la Ronde de Nuit, qui s'appelait à l'origine la Compagnie de Milice du capitaine Franz Banning Koch.
Ah, capitaine! Alors, si j'accepte ce travail, ce sera pour réinventer le tableau de groupe. Vous vous tortillez.
Tous les autres capitaines de milice ont vu à quoi leur portrait ressemblera.
Personne ne verra le tableau avant qu'il soit fini. Restez tranquille.
Je demande à voir mon portrait tout de suite.
Fermez les yeux. Ouvrez-les.
Ah, j'ai un air magnifique. Oh, mais mon chapeau, mon écharpe, ma moustache semble flotter dans le vent. Oh, ces couleurs sont si vives qu'elles rayonnent. Toute la troupe a l'air d'être en marche à travers la toile. Et juste une seule petite question. Et qui sont toutes ces autres personnes ?
Alors, ces autres personnes sont 27 hein, sur ce tableau qui était gigantesque. D'ailleurs, pour être sur ce tableau, la ronde de nuit, il fallait avoir payé cher. Hein. Et il est payé en fonction, je crois, de son grade et de sa place dans la peinture.
Oui, les 16 membres de la compagnie ont versé, en effet, une place correspondante à leur grade. Mais il y a plus de figurants que ces 16 membres. En effet, pour les besoins de la composition, Rembrandt a ajouté des personnages. Ce qui est important surtout, c'est qu'il bouleverse ici complètement ce genre qui était très traditionnel dans la peinture hollandaise. Du portrait de groupe et qui était très en vogue à Amsterdam en particulier et ici il affirme vraiment son originalité, son indépendance en par rapport à ses rivaux dans la mesure où il peint une compagnie en mouvement déjà, une compagnie en mouvement où bon, il avait déjà travaillé dans la leçon d'anatomie sur ce bouleversement de la composition. C'est un groupe en marche ici, un groupe en marche et Rembrandt choisit le moment où le capitaine qu'on voit au centre du tableau donne le mouvement finalement. Donne l'ordre du départ et où la compagnie qui s'était rassemblée est mise en avant.
Ça s'appelle la ronde de nuit et je crois que ça a été peint de jour.
Oui, c'est en fait lié au vieillissement du vernis.
Ah bon ?
Au cours du 18e siècle, des vernis que la scène s'est assombrie et a reçu ce titre alors qu'il s'agit en effet d'une ronde faite par la compagnie qui était l'ensemble des gardes mais de jour.
C'est le plus célèbre je crois de ces tableaux.
Oui. Hein.
On le voit actuellement au Rijksmuseum d'Amsterdam. Oui. Il est gigantesque. Hein.
Oui, il mesure 363 sur 438 centimètres. Mais Rembrandt affectionnait les tableaux de grande dimension.
Enfin, il est magnifique en tout cas. Et ça, c'est au moment où la vie de Rembrandt bascule. On est en 1642. Saskia vient de mourir. Et voilà qu'il commence à perdre pas mal de commandes. On se détourne de lui, en fait, Anne-Sophie Molinier.
Oui. Rembrandt, de plus en plus, privilégie ce qu'il disait lui-même, sa liberté et sa passion pour la peinture et se désintéresse de plus en plus des attentes des commanditaires. Ce qui fait que ceux-ci vont s'éloigner de lui parce que le type de peinture qu'il produit est très éloigné du goût de l'époque, d'une peinture plus lisse, on pourrait dire aujourd'hui plus léchée. Et même dans les portraits, d'ailleurs, parce qu'il continue aussi à peindre des portraits, mais les commanditaires parfois ne s'y retrouvent pas. Un certain nombre d'œuvres lui sont refusées, considérées comme inachevées très souvent à cause de sa touche. De ce côté, justement.
Il avait inventé l'impressionnisme 300 ans avant, c'est ça
Je dirais pas ça.
Non,
mais enfin, en tout cas, oui, un côté.
Il tranche, en tout cas, avec ses contemporains, on le voit bien. On lui reproche aussi, évidemment, de peindre trop lentement, dites-vous.
Oui, c'est-à-dire que là aussi, il prend le temps, en fait, qu'il estime nécessaire, et il reprend ses œuvres, et sans, contrairement à certains de ses contemporains, satisfaire les nécessités de telle ou telle commande qui lui est passée. Mais c'est plus encore, je crois, la touche, la matière, en fait, l'importance très très grande qu'il attache à la matière peinte elle-même, qui choque et qui ne plaît qui plaît de moins en moins.
Et puis, on s'en prend de plus en plus aussi à sa vie privée, oui. À Sophie Molinier, d'abord, après la mort de Saskia, bon, il y a d'abord une gouvernante pour son fils, Titus, hein, qu'il avait eu de Saskia, je sais pas quels ont été les rapports avec elle, et puis ensuite, il la chasse, et il prend pour maîtresse une servante, qui s'appelait Heinriche Stoffels.
Oui.
Alors là, et qui devient enceinte. Alors là, on commence à le voir d'un sale œil, à Amsterdam.
Oui, de plus en plus, en effet, ce sont il y a toutes sortes de critiques très très sévères, évidemment, dans ce milieu calviniste. Et Heinrich Stoffel sera convoqué avec Rembrandt, d'ailleurs, à plusieurs reprises devant le consistoire. Rembrandt ne s'y rendra pas, refusera. Il est finalement vu sa position un petit peu à l'écart déjà depuis un certain temps de la religion de l'Église calviniste, laissé. On renonce à le faire venir. En revanche, sa compagne, oui, est obligée de comparaître. Et c'est vrai que cette période est de plus en plus difficile par rapport à sa mise à l'écart de la société.
Il est harcelé par ses créanciers, oui. Par les dettes qu'il ne parvient pas à rembourser, ce qui va entraîner d'interminables procès et leur conclusion, la vente de tous les biens de Rembrandt aux enchères en 1657.
Silence ! Silence, je vous demande de silence. Nous poursuivons la vente des biens de Rembrandt von Rijn. Ducal de Lenne, un portefeuille contenant 25 gravures. Mise à prix 15 florins.
20 florins.
25.
25.
40.
45.
Que ces mêmes gravures ont trouvé acquéreur à la personne de Rembrandt lui-même, il y a 25 ans, pour la somme de 400 florins. Personne ne dit mieux. 45 une fois. 45 deux fois. À juger. Nous adjugeons ce portefeuille au seigneur Armen Decker.
Ce prix est ridicule.
Et puis je m'en vais.
Ainsi se clôt la vente des biens du peintre Rembrandt van Rijn, dit Rembrandt.
3 000 florins pour tous ces trésors.
Que va-t-il devenir ?
D'avoir tout perdu ne l'avance en rien. Et ils le poursuivront jusque dans sa tombe.
Ont été dispersés dans l'ordre de l'inventaire les lots suivants. 70 peintures de Rembrandt van Rijn. Un marbre de Michel-Ange.
C'est assez pathétique. Vous le dites, il a été littéralement escroqué par cette vente aux enchères.
Oui.
On achetait pour une bouchée de pain des choses que lui-même avait achetées 10 fois plus cher ou 100 fois plus cher, oui, quelques années avant.
Oui, à plusieurs reprises d'ailleurs, puisqu'il y a eu plusieurs ventes, mais notamment dans celle-ci qui est la plus importante, où finalement, ça ne va absolument pas lui permettre de rembourser ses dettes et de satisfaire les créanciers, qui étaient de plus en plus inquiets aussi à cause du contexte de, enfin, général de, historique de, économique de l'époque. Et il va être réduit à une certaine misère et à un arrangement avec sa dernière compagne et son fils qui auront en possession toutes ses œuvres, dessins, gravures et donc il va et tableaux, et il va dépendre d'eux pour vivre dans les dernières années de sa
son
vie.
Son fils devient son créancier
Titus,
parce que
oui.
Titus a hérité de sa mère Saskia,
oui.
C'est pour ça,
oui.
Mais pas Rembrandt. C'est vraiment pathétique la fin de sa vie, et elle se voit dans ses tableaux, ses derniers tableaux, son autoportrait.
Part, oui.
Là, c'est plus du tout le personnage rigolard. Heureux de vivre des premières années. Et là, c'est pathétique, les derniers portraits de Rembrandt, que ce soit son autre portrait ou tout ce qui, ou toutes les peintures qu'il peut faire.
Des peintures religieuses, certaines peintures représentant des vieillards, d'autres vieillards, en effet, qui semblent le porter entre eux, enfin en eux, pardon, ou sur leur visage, toute cette amertume et tout. On se poursuit la dégradation physique, mais dans la dégradation physique également tout le pathétique de cette vie, de cette fin de vie.
Et d'autant plus que Heinrichier meurt,
oui.
Puis ensuite c'est son fils, son propre
oui.
fils Titus,
oui.
qui meurt de
oui.
la peste en 1668, juste un an avant que Rembrandt lui-même ne meure
oui.
totalement seul.
Oui.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Est-ce qu'il est resté seul ? Parce qu'on a le sentiment qu'après, c'était la gloire, la consécration. Van
déjà...
Gogh adorait Rembrandt, par exemple.
Oui, mais enfin, déjà, de toute façon, ces dernières années, en effet, sont accompagnées d'une mise à l'écart encore plus grande. Toutes les grandes commandes, par exemple, sont faites à des contemporains de Rembrandt, mais pas à lui, ou alors à lui en désespoir de cause, et finalement on rejette ses œuvres. Et la postérité, finalement, alors de son vivant et pendant presque tout le XVIIIe siècle, il y a des points de vue très très mitigés qui reconnaissent les qualités de son art, mais tout en critiquant fortement et sa vie et ses côtés un petit peu excentriques. Et c'est en effet au XIXe siècle, d'une part, qu'il y a de nouveau une grande reconnaissance, et puis apparaît au XXe siècle, oui, quelques artistes, puis un plus grand nombre. Mais finalement, la reconnaissance est assez tardive.
En tout cas, si aujourd'hui il nous touche tellement, c'est vrai que ses portraits, sa peinture est très, très émouvante. C'est plus
oui.
qu'une technique, au fond.
Oui, il y a un usage aussi bien des couleurs, de la lumière, qui traite de façon tout à fait dramatique et très humaine, très très humaine, la plupart des sujets.
Merci Anne-Sophie Molinier. Pour en savoir plus, je recommande chaleureusement la lecture de votre livre, un tout petit livre, mais très complet et bien illustré, Rembrandt d'ombre et de lumière, publié aux éditions À Propos. À lire également Rembrandt, le clair obscur, de Pascal Bonafou chez Gallimard Collection Découverte, et un beau livre Rembrandt de Bertschmeyer, également disponible aux éditions Gallimard. À voir aussi de très nombreuses expositions, et notamment Rembrandt dessinateur, au Musée du Louvre à Paris jusqu'au 8 janvier 2007. Vous avez pu entendre des extraits du film Rembrandt de Charles Maton, disponible en DVD aux éditions Montparnasse, ainsi que du téléfilm Rembrandt père et fils de David Devine, dans la série Les génies sont parmi nous, et diffusé sur France 5 en 1999. Et maintenant, la suite de notre jeu concours France Inter Le Figaro. Pour jouer et gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro, répondez à la question sur notre sujet du jour. Lequel de ces artistes ne fut pas l'élève de Rembrandt ? Réponse Vermeer. Réponse 2, Ferdinand Boll. Réponse 3, Willem Drost. Je répète, Vermeer, Ferdinand Boll ou Willem Drost. Pour jouer, vous pouvez appeler le 3230, 34 centimes la minute, puis donner votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort. Parmi les bonnes réponses, vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sophie Moreno et Patrick Henry. Documentation, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.